du côté de chez soi, Ali Rebéi.
L'homme qui lit, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait rien? Il absorbe simplement, comme s'il buvait un verre? Ou bien est-ce qu'il fait quelque chose?
Moi, je crois qu'il fait, bien
sûr. Et je vous rappelle que deux grands romans classiques de la littérature française, Le Rouge et le Noir de Stendhal et La Fortune de Gaspard de la Comtesse de Ségur, commencent de la même façon. Vous avez une famille paysanne, un enfant dans cette famille qui est exceptionnelle, et qui lit. Et son père lui flanque des raclées parce qu'il estime qu'il ne fait rien. Il est dans son coin avec son livre, il ne fait rien. Alors la grande question est de savoir, est-ce que l'homme qui lit fait quelque chose ou est-ce que c'est un feignant? Et moi, ma réponse, c'est qu'il fait quelque chose.
Merci.
La lecture, c'est un véritable travail. Et j'ai souvent dit, je donne la moitié d'un roman à mon lecteur et j'attends de lui qu'il écrive l'autre moitié dans sa tête en lisant ce que je lui ai donné.
Bonjour et bienvenue dans Du côté de chez soi, en direct et en public du Salon du Livre à Paris, depuis les studios éphémères de France Culture. Comment les romans construisent-ils les enfants et les adolescents d'un point de vue identitaire, éducatif, imaginaire? Quelles sont les grandes fonctions de la littérature jeunesse, ces vertes lectures chères à Michel Tournier que nous venons d'entendre? Pourquoi nos enfants et adolescents lisent-ils autant d'histoires? Pourquoi est apparue une fiction romanesque spécifiquement adolescente? Voici quelques questions que nous tenterons d'éclaircir dans le laps de temps qui nous est imparti jusqu'à 18h. Bonjour Marianne Chaillant.
Bonjour,
vous êtes philosophe, vous enseignez à Marseille et vous publiez Harry Potter à l'école de la philosophie chez Ellipse. Harry Potter à l'école de la mort, pourrait-on sous-titrer l'œuvre de J.K. Rowling, la mort et la perte expliquée aux jeunes lecteurs, ou comment se comporter face à l'inexorable finitude de nos existences?
C'est vrai, c'est ce autour de quoi j'ai essayé de faire tourner la deuxième partie du livre que je viens de publier. Il me semble en effet que c'est la question qui anime toute la saga de J.K. Rowling et qui fait s'affronter deux attitudes existentielles. D'une part, Voldemort, qui lui va chercher à conjurer la mort et va se détruire, ce faisant. Et de l'autre côté, Harry Potter, qui lui va cheminer vers l'acceptation de la mort comme condition essentielle de la vie.
Nous y reviendrons tout à l'heure. Bonjour Laurent Bazin.
Bonjour Ali.
Vous êtes maître de conférences en littérature à l'Université de Versailles. Vous êtes notamment l'auteur d'Esthétique de la distinction, la question des genres en littérature de jeunesse.
Absolument.
Et bonjour Mathieu Letourneux, vous êtes maître de conférences en littérature à l'Université Paris-Ouest. Les adolescents peuvent lire avec profit et effroi les aventures de Fantomas que vous avez éditées chez Bouquin, chez Robert Laffont, avec Loïc Artiaga.
Oui, c'est vrai.
Et vous êtes tous les deux, Laurent Bazin et Mathieu Letourneux, les membres de l'AFROLOS, c'est l'association française de recherche sur les livres et objets culturels de l'enfance.
Littérature et objets culturels de l'enfance.
Bonjour Sophie Maubert.
Bonjour Ali.
Vous êtes le reporter de l'émission. Qui avez-vous rencontré cette semaine?
Je suis allée à la rencontre d'une psychanalyste. Alors, elle s'appelle Emmanuelle Caillon et elle nous parle de ses lectures adolescentes, alors, qui pour le coup ne cadrent pas du tout, ne rentrent pas dans le cadre de la littérature dite jeunesse.
Alors Laurent Bazin, Mathieu Letourneux, pourquoi cet intérêt pour la littérature de jeunesse? Que pensez-vous de ce que dit notre camarade de France Culture, Charles Danzig, qui n'aime pas la littérature pour la jeunesse? Je le cite dans une interview donnée à La Vie en 2010. « Je suis contre les catégories en littérature, c'est-à-dire contre l'apartheid. Je n'aime pas que l'on considère la jeunesse comme une peuplade un peu demeurée à qui il faut parler un langage simplé. » Laurent Bazin, Mathieu Letourneux.
Oui, en fait, c'est un discours classique contre les genres populaires, contre la littérature pour la jeunesse ou contre l'essentiel des catégories qui participent de la conception française de la littérature. Une littérature qui serait absolue, séparée de toute catégorie. C'est vraiment une construction strictement française et de plus en plus marginale, il faut bien le dire, parce que c'est un modèle qui ne correspond plus du tout aux réalités des pratiques. Deuxième point, il est évident que ce n'est pas parce qu'on définit en partie son lectorat qu'on le prend pour un idiot. Sinon, les collections légitimées des éditeurs de type Gallimard ou les éditions de Minuit, qui déterminent aussi leur lectorat à partir de leur présentation matérielle, prendraient aussi en un sens leur lecteur pour des demeurés. On voit bien qu'on définit toujours son lectorat, mais on le fait selon des stratégies différentes.
Laurent Bazin.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que depuis son apparition, à peu près vers la fin du XVIIe siècle, la littérature de jeunesse a toujours été regardée avec suspicion de la part des prescripteurs éducatifs et culturels. Elle a été tolérée dans la mesure où elle était considérée comme ayant un projet éducatif. C'est ce qui fait qu'on la reconnaissait et qu'on l'encourageait, pour autant que ce projet éducatif soit clair. Mais plus la dimension de divertissement, d'évasion est importante, et plus on la regarde avec inquiétude ou méfiance.
Oui, l'alternative est simple. Soit elle est éducative, et alors c'est une sorte de potion un peu désagréable et médiocre. Soit elle est divertissante, et alors c'est quelque chose d'absolument atroce pour les enfants.
Alors comment définir la littérature de jeunesse qui n'est pas un genre en soi ? Est-ce que ce sont les thèmes abordés qui définissent cette littérature ?
Ça, c'est une question très, très difficile. Et il y a des tas d'ouvrages et de colloques qui s'y intéressent. Donc, on ne va pas la résoudre dans le temps de l'émission, mais on peut, en tous les cas, la défricher. Pourquoi ? Parce que dans la littérature de jeunesse, en fait, c'est une grande nébuleuse qui regroupe des choses tout à fait différentes. Par exemple, les textes qui sont écrits pour un lectorat jeunesse. Par exemple, quand un écrivain ou un éditeur série ou segmente une catégorie particulière, les 12-14, les pré-ados, les jeunes adultes, etc. Mais ça inclut aussi les œuvres qui ont été écrites à une époque pour des adultes, mais qui sont désormais considérées comme faisant partie du patrimoine jeunesse. Ça décrit des œuvres qui ont été écrites pour une tranche d'âge à une époque et qui sont proposées aujourd'hui pour une tranche d'âge en général un peu plus jeune, etc. Donc c'est un...
Mathieu Letourneux.
Il y a une chose caractéristique, c'est que la littérature pour la jeunesse, le terme le dit, ça définit un destinataire. Qui est le producteur de la littérature pour la jeunesse ? Ce sont les éditeurs ou les auteurs, qui sont tous des adultes. Du même coup, la littérature pour la jeunesse définit malgré tout une fonction de l'œuvre, une fonction associée au fait de s'adresser, quand on est un adulte, à un enfant. Quelle que soit la décision de s'adresser, quelle que soit la raison pour laquelle on s'adresse à un enfant, il y a quand même une définition implicite, puisqu'il y a un acte de communication spécifique. Donc, s'adresser à un enfant, ça n'est pas la même chose que s'adresser à quelqu'un.
Marianne Chaillant, pourquoi avez-vous utilisé l'œuvre de J.K. Rowling, Harry Potter, pour philosopher ?
Alors, je dois dire que pour ma part, c'est d'abord un goût personnel, cette saga. Dans le troisième volume de la saga, Harry trouve un livre par terre. Et il s'apprête à le prendre quand son ami le met en garde en lui disant « Fais attention, c'est dangereux, un livre. » On m'a raconté que parfois, certains livres pouvaient rendre leur lecteur aveugle. Et on m'a même dit qu'il existe un livre qui, si on le prend dans la main, on ne peut plus jamais le quitter et on est obligé tout le reste de sa vie d'agir avec une seule main. Je crois que ce livre, c'était Harry Potter. Je l'ai pris dans une librairie et comme Harry, je l'ai pas pu.
Et vous l'avez lu adolescente, jeune adulte ?
Alors hélas, je suis trop vieille pour l'avoir lu adolescente. Je fais pas vraiment partie de la génération Harry Potter.
Harry Potter, c'est un ouvrage assez particulier, c'est un ouvrage de jeunesse, mais qui s'est diffusé dans le public adulte de façon assez incroyable.
C'est vrai que ce qui m'a soulagée, c'est de constater que mes collègues de philosophie éprouvaient le même attrait que moi pour cette œuvre-là. Du coup, je me suis posé deux questions. Alors, soit les professeurs de philosophie sont restés de grands enfants, ce qui est possible, soit, et les deux options ne sont pas incompatibles, la saga Harry Potter a quelque chose à dire qui s'adresse spécifiquement à ceux qui aiment la philosophie.
Pourquoi les lectures enfantines sont-elles aussi marquantes, Laurent Bazin ?
Oh, ça... Vous posez les questions de fond. Hein. Je pense qu'elles sont aussi marquantes parce qu'elles mettent en scène ce qui caractérise la situation d'enfance ou de jeunesse, à savoir le fait d'évoluer dans un monde imaginaire, dans lequel l'imagination reste décisive, reste la clé de lecture du monde. Et je pense que si on voulait tenter, malgré l'extraordinaire diversité du corpus jeunesse à travers les âges et les aires géoculturelles, si on voulait tenter de chercher une spécificité de ces œuvres-là, ce serait probablement ça. La valorisation de l'imaginaire, de la feintise ludique, du faire semblant, du faire comme ski, du faire comme si. Et si on était, qui caractérise l'enfance, et c'est parce que le sujet lecteur se retrouve fondamentalement dans ces univers qu'il s'y identifie.
Mathieu Letourneux.
Oui, il me semble que l'élément... D'abord, il y a un premier point, c'est que les lectures d'enfance sont marquantes parce qu'on a oublié les trois quarts de nos lectures d'enfance. Donc, ce dont on se souvient, ce sont des choses qui ont joué un rôle à un moment ou à un autre. Le deuxième point, c'est qu'en effet, il y a une caractéristique forte de la culture de jeunesse, c'est justement ce lien entre les pratiques fictionnalisantes quotidiennes, jouer à la poupée, jouer avec des figurines, etc., et la pratique de lecture qui insiste énormément sur justement l'immersion fictionnelle. On aime les histoires où il se passe des choses, etc. Aussi bien d'ailleurs les choses qu'on voit à la télévision que les choses qu'on lit. Hein. Et tout ça marque davantage parce que le reste du temps, on continue à vivre ces lectures qu'on a faites en les réactualisant dans la pratique du jeu, de la rêverie, etc. Et ça, il y a des écrivains qui l'ont très bien illustré, des gens comme Stevenson qui nous disent que le bon récit romanesque, et donc le bon récit romanesque, c'est le récit pour la jeunesse, n'imite pas tant la réalité que les rêveries enfantines, que les jeux des enfants.
Ariane Chaillant, pourquoi Harry Potter a-t-il autant marqué les enfants et les adolescents ?
J'aimerais connaître la réponse. Les adolescents et les enfants, je ne sais pas, je peux vous dire pourquoi il m'a marqué à moi. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, parce que j'ai essayé de m'expliquer cette passion que je ressentais pour ce livre. Et donc, je me suis tournée vers toute la littérature qui existait déjà sur la saga. Et comme je ne trouvais pas les réponses qui justifiaient ma passion, j'ai écrit ce livre en guise de réponse. Et c'est, je crois, d'une part, toute cette philosophie implicite qui est dans le livre, et d'autre part, la question fondamentale qui me touchait personnellement et qui, je crois, peut-être touche tout le monde, y compris les enfants, qui est cette question du rapport à la finitude.
J'ai lu un petit peu, mais pas beaucoup. Dracula, donc ça raconte une histoire, c'est une fiction, et puis voilà, après on voit la différence, par exemple, avec une autre œuvre de Marcel Pagnol, par exemple, Le Château de ma mère, c'est pas pareil, c'est une histoire vécue, et... Moi, je dis ça sert un petit peu à s'instruire.
Une maladie imaginaire, je l'ai lu, elle est très bien. Les fourberies de Scapin, j'ai aimé les fourberies de Scapin.
L'île au trésor.
Ah ouais, je l'ai lu celui-là. Ça sert à s'évader de la réalité, tout simplement. Des fois, ça fait du bien quand il y a trop de choses dans la tête.
Crime en cascade, Billy Crocodile, Voyage dans le futur, La guerre des poireaux, il y a plein de trucs.
On a trouvé des livres sur Jules Verne. Oh, il y en avait beaucoup, hein. Quand on lit, on a vraiment l'impression d'être dans l'histoire. C'est une personne qui écrit beaucoup de livres. Dans sa tête, il invente des choses. Mais on peut devenir écrivain. Je ne saurais pas quoi inventer. Si j'étais écrivain, je ne saurais pas quoi inventer.
Ouais, je serais à court d'idées. Hein, j'aurais plus d'idées.
On serait à court d'idées, moi aussi.
Écrivain, hein, je vais être écrivain.
Il faut écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut avoir beaucoup d'idées.
Il faut être un homme splendide.
Peut-être qu'un jour, je deviendrai écrivain, je ne sais pas.
Paroles d'enfants et d'adolescents en 2005 sur France Inter. Laurent Bazin, Mathieu Letourneux, il me semble essentiel d'esquisser une brève histoire de la littérature de jeunesse. La date officieuse de sa naissance en France, c'est le tournant des 17e et 18e siècles avec la publication du Télémaque de Fénelon, écrit pour le jeune duc de Bourgogne.
Oui, absolument. En général, on considère ça. Alors, ça peut un peu surprendre quand on n'a pas l'habitude, parce qu'on se dit, au fond, des jeunes, il y en a toujours eu. Et des histoires pour les jeunes,
des contes, des fabliaux.
Il y en a toujours eu. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que la notion même d'enfant n'existe pas réellement avant la fin du XVIIe. Hein, c'est les travaux des historiens, notamment de Philippe Ariès, qui ont mis en évidence le fait que l'enfance est une notion relativement moderne qui apparaît à la fin du XVIIe avec Fénelon, avec au même moment les travaux outre-Manche de John Locke, où on commence à concevoir l'identité de l'enfant et on commence à le concevoir d'une manière très conceptuelle. C'est-à-dire c'est une cire vierge qu'il s'agit de former. Donc, puisqu'il faut la former, elle est encore très malléable, il faut lui écrire une littérature dédiée qui va permettre de précisément pouvoir la construire dans le sens qu'on attend. C'est pourquoi, dès le début, dès la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe et XIXe, la littérature pour jeunesse se voit assigner une fonction éducative primordiale.
Didactique,
instructive, édifiante, etc. Et donc, il y aura évidemment toute une partie de cette littérature qui sera là pour transmettre des valeurs morale, éthique, religieuse, etc. En même temps, dès le début, et Fénelon et Locke se rendent compte qu'on ne peut pas parler à un enfant comme on parle à un adulte, que l'enfant, c'est précisément le temps du plaisir, le temps du ludique, et donc qu'il faut prendre en compte cette dimension-là. Et l'un et l'autre théorisent l'idée que si on veut parler aux petits, il faut les séduire, il faut leur raconter des histoires. Et donc, dès le début, au fond, est posée la dialectique fondamentale qui, à mon sens, caractérise la littérature pour la jeunesse, c'est-à-dire d'être un conflit entre éducation et divertissement. Alors, tout au long, ensuite, du 19e, du 20e et jusqu'à aujourd'hui, on retrouve cette tension plus ou moins marquée. Si vous prenez l'exemple du 19e, vous avez Hetzel, au tournant du 19e, qui dit... Moi, je vais essayer de porter au même moment les deux aspects, de faire une littérature qui soit à la fois éducative, mais éducative intelligente, une littérature d'apprentissage, de découverte, d'exploration, à la fois intellectuelle et culturelle. Et en même temps, je veux que ça soit un lieu d'évasion, un lieu d'imaginaire, et donc je veux que ça soit des fictions. C'est ce qui donne...
Une date importante au XIXe siècle, évidemment, c'est l'invention par Hachette en 1856 de la bibliothèque Creuse, qui publie la Comtesse de Ségur, et puis ensuite la bibliothèque verte.
Tout à fait. Alors, c'est le moment où le XIXe, c'est le moment où les éditeurs prennent le pas des pédagogues. 17e, 18e, c'est les pédagogues qui construisent la littérature de jeunesse. On est là pour faire acte d'éducation. À partir du 19e, et évidemment le phénomène va s'accélérer de manière drastique au 20e et jusqu'à aujourd'hui, les éditeurs vont prendre le relais, ce qui a pour effet d'ajouter une dimension stratégique, une dimension commerciale. Le destinataire, l'enfant d'abord, puis l'adolescence, devient cœur de cible qu'il faut toucher. Pourquoi on crée la bibliothèque Rose ? C'est parce que à l'époque, il y a le monopole des bibliothèques de gare. Il faut toucher les familles. Et s'il faut toucher les familles, il faut toucher aussi les petits. Donc, il faut produire des histoires qui vont pouvoir les toucher. C'est comme ça qu'on met en place le dispositif.
Mathieu Letourneux, quelles sont les grandes valeurs qui sont véhiculées dans la bibliothèque rose, verte?
Bon, elles évoluent considérablement avec le temps. Mais ce qui est certain, c'est que pour le 19e siècle, pour la seconde moitié du 19e siècle, il s'agit d'assigner une place future aux garçons comme aux filles, c'est-à-dire à ces futurs adultes qui constitueront la nation. Donc, pour les garçons, il s'agit de leur faire partager le désir de participer à la construction d'une puissance française, d'une puissance nationale. Ça sera le roman d'aventure géographique. Pour les filles, au contraire, ce sont les romans du foyer. On leur explique comment élever leurs poupées, comment aider les pauvres, etc. C'est une chose intéressante que de se dire que cette négociation entre le plaisir et l'éducation passe aussi par une assignation d'un type de plaisir genré, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement ce que les garçons identifient aujourd'hui comme le plaisir du romanesque et les filles le plaisir de la dinette est aussi une construction culturelle forte de cette littérature et de cette transmission du 19e siècle.
Au fil du 20e siècle, la littérature de jeunesse devient peu à peu une littérature au sens noble. Laurent Bazin.
Ça met du temps, hein. Ça met du temps quand même, parce que au début du 20e siècle, vous avez encore toute une croisade des milieux bien pensants, notamment de toute la presse catholique. Il y a la célèbre diatribe de la Bethléem sur les romans à proscrire, les romans à lire et à proscrire, et dans les romans à proscrire, il y a évidemment la littérature de jeunesse. Donc je dirais que la légitimation vient très tard, beaucoup plus tard.
Quel moment?
Oh, à mon avis, pas avant l'après post-70, c'est-à-dire et encore, le type de littérature de jeunesse qui est légitimée dans l'institution culturelle et éducative à la fin du 20e siècle, c'est quand même la littérature patrimoniale de jeunesse. C'est les grands auteurs, c'est Stevenson, Twain, etc. Je pense que le changement, le moment où l'institution culturelle, le moment où l'institution médiatique commence à s'intéresser à ça, c'est le 21e siècle.
Il y a deux choses qu'on peut dire. D'abord, la citation par laquelle vous avez commencé montre que cette légitimation est tout à fait relative, c'est-à-dire que cela continue à être quelque chose proche de la sous-littérature. Le deuxième point, c'est qu'il est vrai que la littérature pour la jeunesse est liée à l'histoire de l'industrie culturelle et qu'elle a toujours été très fortement marquée par des politiques qui sont des politiques commerciales fortes, hein, avec une faible attention à la littérarité, puisque les enjeux étaient aussi éducatifs. Et puis le dernier point, c'est que je pense que la légitimation de la littérature pour la jeunesse, elle tient en effet à des transformations des représentations, mais elle tient aussi à cette terreur ressentie devant le déclin de l'imprimé, du livre, dans une civilisation du livre, qui reste une civilisation du livre, qui fait qu'aujourd'hui, on peut considérer, beaucoup de prescripteurs considèrent que la lecture, c'est déjà bien, quel que soit le livre lu.
Alors, dès son origine, la littérature de jeunesse a pour ambition de contribuer à former la personnalité du lecteur, à lui transmettre des savoirs et bien sûr de le distraire. Alors, pendant longtemps, cette littérature est une littérature éducative, morale, instructive. Mais est-ce encore le cas ? On le sait, la littérature de jeunesse reflète les valeurs d'une époque. Quelles sont les grandes valeurs que l'on retrouve dans les fictions romanesques contemporaines ? Je pense à la tolérance, au respect d'autrui. Laurent Bazin.
D'abord, je dirais que ce qui me frappe quand je regarde la littérature de jeunesse, et en particulier pour ados du XXIe siècle, c'est qu'elle est très fortement déterminée par les fictions, par les littératures de l'imaginaire, ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire. C'est-à-dire que ce qui restait encore très important à la fin du XXe siècle, et qui était tout le roman historique, le roman, ce qu'on appelait le roman social, le roman de vérité, le récit de vie, qui a été assez fort et très développé à cette époque-là, a vraiment cédé le pas aux littératures de l'imaginaire. Les deux genres dominants, surdominants de l'édition contemporaine, c'est la fantasy et les dystopies. Donc vraiment, deux genres qui sont intéressants parce qu'ils sont... Alors, pour répondre à votre question en termes de contenu, la fantasy, c'est le genre de l'enchantement, et la dystopie, celui du désenchantement. Et il me semble intéressant de voir que ce sont les deux modes qui sont portés par l'édition contemporaine.
Mathieu Letourneux. Sur les valeurs transmises dans les fictions contemporaines destinées à la jeunesse.
Il y a un élément majeur pour comprendre la littérature pour la jeunesse, c'est précisément que c'est nécessairement, qu'on le veuille ou non, une littérature de transmission, puisque ce sont des adultes qui s'adressent à des enfants et qui décident, ou à des jeunes, qui décident de s'adresser à eux. Donc il y a de la transmission. Mais cette transmission, elle passe parfois malgré soi. C'est-à-dire que les auteurs, les éditeurs n'en ont pas conscience. Il n'empêche que les textes choisis sont des textes qui transmettent des valeurs. Aujourd'hui, on constate quand même une chose qui n'existait pas, ou qui existe n'existait pas de la même manière dans la littérature pour la jeunesse il y a encore 50, 60, 70 ans, c'est la mise en valeur de la figure individualiste. Le modèle individualiste est devenu un modèle très fort de la littérature pour la jeunesse, la réussite personnelle, l'accomplissement, qui sont des valeurs sociales, des valeurs culturelles, mais qui passent en contrebande, qui ne passent pas nécessairement par un discours didactique, mais qui existent dans les faits et qui, à mon avis, marquent cette littérature contemporaine.
Laurent Bazin.
Ceci étant, je pense qu'il faut aussi prendre en compte les différences entre ères géoculturelles. C'est-à-dire, si vous comparez le roman pour ados américain, par exemple, et le roman pour ados en France, vous voyez des différences assez fortes. Le roman pour ados aux États-Unis reste quand même très fortement porteur de valeurs de cohésion sociale, de foi dans l'avenir, dans la capacité de l'individu de construire son propre progrès. Alors que le roman français est plus pessimiste, plus désenchanté. Vous voyez par exemple, vous voyez des romans français dans lesquels le héros meurt, des romans qui mettent en scène, vous savez, les conflits d'adolescents, c'est-à-dire ces romans où on met en scène des mondes sans adultes et où, un peu à l'instar du Golding, de Sa Majesté des Mouches de Golding, les héros non pas reconstruisent un monde meilleur, mais s'entre-déchirent. Donc il y a quand même une...
Il y a une chose très intéressante. Pour savoir quelles sont les valeurs de la littérature pour la jeunesse, il suffit de regarder à chaque fois que les gens vous disent « mais ça, c'est pas de la littérature pour la jeunesse, ça devrait pas être lu par les enfants ». À chaque fois, en réalité, c'est une façon implicite de définir en creux ce qui est la transmission en littérature pour la jeunesse. Donc, il y a cette idée, finalement, d'un rôle assigné à la littérature pour la jeunesse qui va toujours être mise en cause, évidemment, à la fois par les lecteurs qui ne choisiront pas forcément ça et par les auteurs qui, eux, se positionneront parfois dans l'écart par rapport à ces représentations collectives de la littérature pour la jeunesse et ses fonctions.
Laurent Bazin.
Oui, il y a eu une enquête récemment auprès des éditeurs pour voir quelle était l'évolution, justement, de ce type d'ouvrage. Et ils disent, il y a une course au noir, il y a une course au sombre. C'est-à-dire que les ados d'aujourd'hui sont de plus en plus demandeurs de sombre. Ils veulent plus du rose, ils veulent de moins en moins du merveilleux. C'est la raison pour laquelle la dystopie est en train de prendre place, de supplanter la fantaisie. Hein.
Marianne Chaillant.
Vous me demandiez tout à l'heure ce qui a fait le succès d'Harry Potter. Peut-être qu'on tient là la réponse. C'est que Harry Potter réussit à parler à la fois du merveilleux, de l'enchantement, et en même temps, on va parler du désenchantement, puisque les deux héros de la saga sont confrontés très tôt à la perte, à la mort. C'est donc des questions vraiment noires qui sont abordées, et tout ça sur fond de merveilleux. Donc peut-être ça a produit la synthèse.
La bande originale du dessin animé Tom Sawyer de Mark Twain. Mathieu Le Tourneau, c'est un roman adapté, édulcoré pour les enfants et les adolescents. Il est très intéressant ce cas de Tom Sawyer.
Oui, le cas de Tom Sawyer, c'est typiquement le cas d'une littérature qui touche le jeune lecteur parce que les personnages sont des jeunes lecteurs et qui traduit cette logique de négociation. C'est-à-dire que quand les lecteurs s'approprient un texte, il y a un problème, c'est que le texte n'est pas toujours, selon les prescripteurs, adapté à ces jeunes lecteurs. Et donc, il va falloir transformer le texte soit en faisant des textes équivalents, soit en le coupant. On a beaucoup d'exemples de ce type, L'appel de la forêt de Jack London, qui ne s'adressait pas à la jeunesse et dont on a coupé des parties entières dans la version française jusqu'à il y a très très peu de temps. On peut citer aussi
Les quatre filles du docteur March.
Oui, les quatre filles du docteur March. Et on peut citer un exemple très proche, c'est celui des reformulations dans d'autres œuvres de goût de jeunes lecteurs mais qui ne sont pas adaptées à eux. Le cas le plus connu, c'est le cas de Chair de poule. Pourquoi est-ce qu'il y a eu Chair de poule? Parce qu'on s'est rendu compte que tous les lecteurs lisaient Stephen King et que c'était un problème. Et donc on a fait du Stephen King sans horreur et sans sang à travers Chair de poule.
Laurent Bazin.
Oui, c'est à toutes les époques, on a eu tendance à édulcorer les œuvres. On vient de parler effectivement de les quatre filles du docteur March. C'est un texte qui met en scène une héroïne qui transgresse, hein, qui transgresse l'ordre social. Et en France, on a mis à peu près 100 ans à le traduire dans sa vertu. Même chose pour Fifi Brin d'Acier, qui dans l'original est une bombe de révolution et qui en France a été complètement édulcorée. Même chose encore pour Heidi, hein, qui dans le texte français est un livre un peu mièvre de retour à la nature, alors que dans le texte original, c'est un conflit finalement entre nature et civilisation.
Alors parlons du cas spécifique de la littérature pour adolescents, un marché très courtisé par les éditeurs. À quel moment naît cette littérature spécifique? Le paradoxe, c'est que l'adolescent possède les mêmes capacités de lecture que l'adulte, Mathieu Le Tourneau.
Oui, ça correspond à ce qu'on vient de voir pour tous ces livres revus. Il y a un phénomène qui est très intéressant, c'est que l'adolescent sait lire les mêmes choses que les adultes. Et l'adolescent va donc choisir, est capable de choisir et de trouver. Et il y a un plaisir de l'adolescence, c'est la transgression. Et donc, très souvent, l'adolescent va choisir des livres dans la bibliothèque de ses parents. Et les grands genres de la littérature adolescente sont en fait une tentative pour remettre en ordre cette lecture buissonnière des adolescents. Le roman d'aventure pour la jeunesse, Jules Verne, n'est rien d'autre qu'une réaction au succès de Fenimore Cooper, de Gabriel Ferry chez les jeunes lecteurs, qui sont des auteurs qui ne s'adressent pas à la jeunesse, mais que n'importe quel adolescent peut lire. Et donc, quand vous lisez les plaisirs des adolescents, vous voyez bien qu'il y a d'abord ce plaisir de la lecture de livres pour adultes, et puis, immédiatement après, apparaissent des livres pour la jeunesse qui sont conçus pour eux, c'est-à-dire qui sont en quelque sorte euphémisés, contrôlés, moralisés, etc.
Pour vous, Mathieu Le Tourneau, la transmission est au cœur de cet essor de la littérature pour adolescents?
La transmission et le contrôle. Je pense que c'est toujours vrai, mais qu'on on ne le voit peut-être plus tellement aujourd'hui parce que la valeur de transgression, la valeur de liberté associée à la lecture sont des valeurs importantes transmises aussi. Et donc, la créativité, la littérarité du texte sont aussi des valeurs qui se transmettent et qui affectent aussi la nature des textes.
Laurent Bazin, au cœur des pratiques de lecture des adolescents, nous retrouvons une opposition entre lecture légitime et lecture illégitime, entre lecture pure et impure.
Oui, tout à fait. Mais ça tient, ce que vient de dire Mathieu s'explique par l'histoire, si vous me permettez un très rapide détour. J'ai dit tout à l'heure que la notion d'enfant est très récente, elle apparaît à la fin du XVIIe, avec la création du concept de cire vierge. La création de la notion d'adolescence est encore plus récente. Elle apparaît courant XIXe, mais pas du tout d'une manière conceptuelle comme l'enfant, d'une manière très concrète. L'adolescent, c'est un opposant potentiel. L'adolescent, c'est le travailleur, c'est le manifestant possible, c'est le larron, celui qui est susceptible de transgresser. C'est un individu perçu comme un facteur potentiel de désordre social. Donc, la naissance de l'adolescent est, dès le début, marquée par une double volonté pédagogique et pénale. Je rappelle deux dates qui, pour moi, sont très symboliques. 1882, instruction laïque obligatoire, qui dit jusqu'à 12 ans, vous devez faire école. Ça veut dire qu'après, de 12 à 20 ans, il y a une zone de non-droit. Voilà, il y a une zone un peu flottante dans laquelle vous n'êtes pas encore un adulte, vous n'êtes plus un adulte. Et 1906, première fois où on crée des lois pour les ados entre 12 et 20 ans. C'est-à-dire que dès le début, l'adolescence, c'est quelqu'un qu'il faut contraindre, que ce soit par l'éducation, que ce soit par la prison. C'est du Foucault hein, qui a dit ça. Et la littérature va obéir à cette double fonction.
Mathieu Le Tourneau, pourquoi l'adolescent est avant tout sensible à la lecture d'un roman où le héros s'accomplit ?
Alors, y a deux conceptions de l'existence qui s'expliquent très facilement. Jusqu'à un certain âge, on s'envisage en termes d'accomplissement. Quand je serai grand, je ferai ça. Quand j'aurai mon bac, je ferai ceci ou je ferai cela. Puis en vieillissant, nous le savons malheureusement, on commence à se rendre compte que ce qui va se passer quand on grandira, on cessera de grandir justement et on commencera à vieillir. Et c'est-à-dire que le mouvement ne sera plus celui de l'accomplissement, mais un mouvement vers la mort et vers le choix, les choix, le déclin. Il y a deux grands modèles littéraires dans l'histoire de la littérature, le romanesque et le réalisme. Le réalisme et le romance et le novel pour les anglo-saxons. Le roman réaliste, c'est le modèle de Zola, dans lequel les personnages pensent qu'ils vont s'accomplir et un jour, ils découvrent qu'ils vont bientôt mourir. Le modèle romanesque, c'est un modèle qui est un modèle de l'accomplissement, de l'apothéose du héros. Et il est assez compréhensible que les lecteurs aient tendance à être plus sensibles à ce modèle qui correspond davantage à un certain âge, à une conception de l'existence.
Marianne Chaillant, ce qui est étonnant dans Harry Potter, c'est que le héros s'accomplit, mais avec une conscience aiguë du déclin et de la mort. Face à l'expérience de la mort et de l'épreuve de la douleur, de la perte, le roman de J.K. Rowling met en scène un refus de la finitude, illustré par deux personnages, Dumbledore et Voldemort.
Oui, alors encore une fois, Harry Potter semble opérer la synthèse entre deux dimensions, le romanesque et le réalisme, si j'ai bien compris, car il est vrai que Harry s'accomplit en réalisant précisément qu'il doit mourir. Vous avez bien lu, je vois, mon livre, parce que vous parlez de Dumbledore qui incarne ce refus de la finitude. C'est pas évident pour les lecteurs de J.K. Rowling, ce sage de la saga, et en effet meurt parce qu'il met à sa main une bague qui lui permettrait, pense-t-il, de retrouver les gens qu'il a perdus. Et c'est cette bague qui est responsable du sort qui va lui coûter la vie. Alors, en effet, Dumbledore, comme Voldemort, se perdent à vouloir chercher à tout prix à conjurer l'inévitable.
Et Voldemort qui refuse la mort, qui préfère une vie maléfique à la mort, contrairement à Harry Potter, qui affirme qu'il vaut mieux mourir que de vivre l'existence maudite de Voldemort.
Il n'est pas le seul dans la saga à incarner ce refus de la finitude. Des fantômes de Poudlard, en passant par un ensemble d'objets, d'ailleurs, les reliques de la mort, la pierre philosophale, un des frères Peverell. Enfin, ils sont plusieurs comme ça, plusieurs personnages, plusieurs objets à incarner cette première position existentielle, qui est peut-être la nôtre d'ailleurs, de refuser de se braquer devant la perspective de la perte inévitable. Et face à eux, le cheminement de ce petit personnage de Harry Potter qui, lui, va trouver la force de comprendre que l'acceptation de la mort est ce qui fonde le commencement de l'existence.
Laurent Bazin, pourquoi les adolescents lisent-ils autant de contre-utopies, de dystopies comme Hunger Games de Susan Collins?
Alors,
de façon brève.
Vaste question. Pourquoi les adolescents lisent autant de fiction d'abord et de littérature de l'imaginaire? Juste en deux mots, rappeler un concept très opérationnel pour comprendre cette fascination pour l'imaginaire, qui est celui de roman familial. Concept lancé par Rank et Freud, et puis repris et actualisé par Marthe Robert, qui est de dire l'adolescence, c'est le moment où l'ado prend congé de la sphère parentale, va se construire un roman familial en jouant de rêveries, qui sont les rêveries de l'orphelin, de l'enfant trouvé, du bâtard, qui sont aujourd'hui les figures structurantes des romans pour ados. Donc, premier temps, la fuite dans l'imaginaire, le moment où tout est possible, le moment où l'ensemble des possibles reste ouvert, ce que rappelait à l'instant Mathieu Letourneux. Ça, c'est plutôt le choix de la fantaisie. Et puis, il y a le deuxième temps, qui est celui du désenchantement, celui de la lucidité, selon l'angle d'attaque qu'on voit. Et il me semble qu'on est plutôt dans cette phase-là, le moment où l'ado accepte de regarder en face le fait que la multitude des choix possibles que nous portons en nous doit déboucher sur un seul choix, c'est-à-dire la prise de conscience du principe de réalité. Et la dystopie est le genre qui met ça en scène. Une œuvre, s'il fallait en choisir une, plus encore qu'Hunger Games, qui a eu un succès médiatique extraordinaire, mais que j'aurais tendance à favoriser pour ses immenses qualités d'écriture, c'est Métaux, de Yves Grevet, qui montre bien ça. C'est le moment où l'adolescent dit je ne suis pas meilleur qu'un adulte, mais je dois tout de même m'affirmer en tant que tel. Le dernier mot de l'œuvre, c'est il faut désobéir. Au fond, ce qui est m'affirmer en tant qu'adolescent, c'est l'apprentissage maîtrisé de la désobéissance.
Et dans Harry Potter, on retrouve également cette injonction à la désobéissance.
Oui, d'ailleurs, il y a le personnage qui incarne a priori le respect des règles, qui est Hermione, qui à un moment donné dit « Est-ce que c'est pas tellement excitant de briser les règles ?» Oui, donc on apprend à désobéir à Poudlard aussi.
Sophie Bobert.
Allez.
Alors cette semaine, vous avez rencontré une psychanalyste qui vous a raconté des choses très intéressantes sur la littérature de jeunesse.
Oui, c'est clair. C'était très étonnant parce que pour elle, ni roman d'aventure, ni roman du foyer, mais Freud, en fait. Freud à 13 ans, pour comprendre, pour accéder au monde des adultes.
Moi, j'ai eu le sentiment vraiment d'être dans une salle d'attente pendant ma préadolescence et mon adolescence. Cette espèce de truc entre les deux, où on n'est plus une enfant, on n'est pas une adulte, donc voilà. Ça m'a pas trop plu, et donc du coup, j'étais dans une salle d'attente et j'attendais de pouvoir accéder au monde des adultes, en fait. J'ai trouvé que ça durait un temps interminable, en fait. Et donc du coup, je me suis intéressée à des lectures que j'ai... Imaginez être des lectures de grands adultes. Je voulais passer le cap de qu'est-ce qu'on lit quand on est grand. Donc du coup, j'ai choisi des lectures pas interdites, mais pas conseillées pour du pré-ado.
C'est-à-dire
Donc c'est à cette époque-là. Je crois que une de mes premières lectures où j'ai acheté mon livre, parce que je voulais vraiment que ce soit à moi, j'en ai pas parlé à mes parents ni à personne, mais mon premier livre, c'est un livre de Freud. C'est un psychopathologie de la vie quotidienne.
Mais vous aviez quel âge ?
Je devais avoir 12-13 ans, je pense. Je voulais un livre avec un titre compliqué, d'un auteur un peu comme ça, obscur pour moi à l'époque, qui me parlait des gens, de la manière dont ils étaient à l'intérieur. Je sais pas, j'imaginais.
C'est la figure du sage, Freud, avec sa barbe blanche.
Ouais. Ouais, je pense que le physique jouait pas mal. Enfin, l'image que j'avais de Freud, ça jouait pas mal. J'avais envie d'une transmission, je crois, en fait. J'avais envie d'un grand-père imaginaire qui me transmet la manière dont il a traversé la vie, etc. Mais je ne voulais pas de roman. Je ne voulais pas qu'on me raconte une fausse histoire. Je voulais du vrai.
Mais même un mot passant, le mot passant des collèges, ou une romance cruelle, initiatique
Non, je crois que le seul dans ce genre-là que j'ai à peu près aimé à l'époque, c'était Madame Bovary. Voilà, je crois que c'est à peu près le seul, où là j'y ai retrouvé un peu de ce qui se passe entre les gens, en ayant le sentiment que c'était pas que du faux. Mais je crois que sinon, les autres, non, j'ai pas aimé. Je me rappelle des... Qu'est-ce qu'on lisait à l'époque? Je me rappelle de... Au nom de mon père. Ça m'avait gonflé. Ça me parlait pas de moi. Ça me parlait d'autres gens à la campagne, avec une espèce de cruauté que je reconnaissais pas. Ça m'aidait pas, quoi. Donc, j'arrivais pas du tout à rentrer dedans. Donc, je l'ai fait de manière assez scolaire. Mais c'est pas là que j'ai appris à aimer la lecture, en fait. Et ça, c'était plutôt en primaire, et oui, non, ça m'a pas plu. Mais
Vous êtes entrée dans le livre par le biais des lectures portées sur la psychanalyse.
C'est ça. Oui, sur la psychanalyse, sur la philo, parce que un des autres livres qui me reste, c'est Vercors. C'est un livre qui s'appelait L'animal dénaturé, et qui posait la question de qu'est-ce qu'un homme par rapport à un animal, à quel endroit on situe la frontière. J'avais trouvé ça absolument passionnant. J'aurais eu envie de rentrer dans le bouquin et de participer à la conversation. Voilà. Et ça me parlait. Et surtout, ce qui m'émouvait beaucoup, c'était le fait que le livre en lui-même, il ne sait pas que je suis une ado ou une pré-ado. Ouais. Il me parle comme il parle aux grands. Voilà. Et donc, du coup, enfin, quelqu'un me parle en présupposant que je suis intelligente. Et je crois que ça, c'était le meilleur des cadeaux qu'on pouvait me faire à l'époque.
Ça signifie que tout ce marché pour adolescents, qui commence à éclore déjà, enfin tous ces titres pour enfants et adolescents, n'auraient jamais pu vous toucher, vous, à l'époque.
Alors, je pense même que le fait même qu'il y ait marqué bibliothèque ado, mais d'ailleurs je me souviens de la bibliothèque rose, verte, etc., rien que ça me rebutait. L'idée que ce soit un livre qui avait été pensé pour ma classe d'âge... Ça ne me plaisait pas du tout.
Et là, il y a même eu une période, lorsque vous avez un peu grandi, que vous aviez, je crois, 15-16 ans, Emma, où vous avez séché les cours pendant 5-6 mois pour ne faire que lire, hein, c'est ça?
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 5-6... Bah, en troisième, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais avoir en bonne note ou passable sans bosser. Donc mes résultats scolaires sont tombés en catastrophe. Donc je ne sais pas, genre 5 de moyenne, un truc comme ça.
Donc, vous allez redoubler.
Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé cette année-là, c'est que ça passait plus. Donc du coup, l'école qui était un peu déjà chiante pour moi, elle est devenue problématique parce qu'en plus, j'avais pas de bons résultats. J'étais dans l'incapacité d'ouvrir mon sac et de me mettre à bosser. Et donc du coup, j'ai coupé. Et mes parents bossaient beaucoup, donc je faisais semblant d'aller à l'école le matin. Et puis je revenais chez moi, et puis je bouquinais, et puis
ça m'allait. Ils s'en rendaient pas compte.
Bah non, ils ont mis 6 mois. Alors évidemment, j'écrivais des faux mots, d'excuses. J'étais très malade.
Là, vous étiez une vraie ado, hein, pour le coup.
Ouais, c'est ça. Là, j'étais hyper transgressive, ça me faisait chier. Mais je faisais pas de bêtises. Je rentrais chez moi et voilà, je me faisais ma petite vie. Je bouquinais, j'allais me chercher des trucs à la librairie. J'étais bien. J'ai pas de souvenir que c'est une période pendant laquelle j'étais triste. Non, j'étais plutôt super contente d'être libre. Voilà, c'était ça. C'était le principal, finalement. J'en avais foncièrement besoin.
C'était un reportage de Sophie Bobert que je n'ai hélas pas le temps de soumettre à la sagacité de mes invités, Marianne Chaillant, Mathieu Letourneux et Laurent Bazin. Pour terminer quand même, le roman fondamental qui vous a construit lorsque vous étiez enfant ou adolescent, Laurent Bazin.
J'ai eu la chance d'en lire plein et il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais si je devais en retenir un, ce serait Huckleberry Finn de Mark Twain, et à l'époque je pense que je n'ai pas su pourquoi, et aujourd'hui avec le recul je dirais que c'est parce que c'est justement le roman qui fait le passage entre l'enfance et l'âge adulte.
Mathieu Letourneux.
Chez moi on avait le droit de lire Charlie Hebdo, Pilote, Fluide Glaciale, L'Écho des Savanes, mais on n'avait pas le droit de lire Mickey, Pif et les comics américains, et c'est cette expérience traumatisante qui m'a construit pour la vie entière.
Marianne Chaillant.
Moi le premier livre dont je me souvienne c'est Tourguenieff, Premier Amour. J'en ai lu d'autres avant, mais j'ai peu de mémoire, je ne pourrais pas les raconter.
Alors c'est la cause des coups de fouet.
C'est le fouet, je crois, oui, c'est sûr.
Merci beaucoup Marianne Chaillant. Harry Potter à l'école de la philosophie est publié chez Ellipse dans la collection Culture Pop. Merci beaucoup Laurent Bazin et Mathieu Letourneux, respectivement maîtres de conférences en littérature à Versailles et à Paris-Ouest. Quel est le site de votre association, La Frolos?
www.afrolos.com. Comme.
Et il y a une revue universitaire qui s'appelle Strenae, qui parle de littérature et de culture de jeunesse.
Vous pouvez, merci à tous, vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur franceculture.fr. Du côté de chez soi a été produit par Ali Rebéi, réalisé par Peyré Legras, avec à la prise de son ici en direct au Salon du Livre, Pierrick Monsigny et Tanguy Le Corneau, chargé de production Jean-Christophe Perrin. Une émission préparée et organisée par Pascaline Bonnet. Bonne semaine à l'écoute de France Culture.